Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, le dernier Clap Cinéma avec Anne et Laura en 2025, mais nous nous retrouverons l'an prochain. Bonjour Anne.
Bonjour Sylviane.
Bonjour Laura.
Salut.
Alors, on ne s'est pas mis d'accord sur les films que je découvre en même temps que vous. Chacune d'entre nous en présentera deux. Il y a des petits doublons, mais c'est pas grave, ça fait partie des aléas de la vie. Et comme je le dis à chaque fois, il y a aucune... tout est subjectif dans nos choix, ni anciens, ni récents, ni... bon, qu'on a aimé de toute façon. Et Laura, tu commences avec Coupé. Ça y est, c'est fini, Coupé.
Alors, Coupé est un film réalisé par Michel Hazanavicius en 2022. C'est une comédie et d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est aussi un film de genre, parce qu'en fait, c'est un film d'horreur français, ce qui est rare. En tout cas, ça l'est pour ses 30 premières minutes, mais je vais y revenir. Pour poursuivre encore un peu avec la fiche technique du film, je vais vous donner un semblant de synopsis. Donc, c'est une petite équipe de tournage qui essaie de tourner un film d'horreur, de zombies, avec un budget très restreint. Mais ils rencontrent plus que de simples difficultés techniques lorsque de vrais zombies commencent soudainement à les attaquer. En réalité, le film est segmenté en trois parties, et là ce synopsis correspond seulement aux 30 premières minutes dont je parlais précédemment. Il ne spoil pas, ni ne divulgage rien, le synopsis, mais ça va être un peu compliqué de parler du film sans aborder les autres parties. Mais je vais essayer, promis. Pour en revenir à cette première partie, honnêtement c'est vrai qu'on peut la trouver plutôt déroutante. Elle fait très nanar, moi aussi quand je l'ai vue j'avais du mal à comprendre et à entrer dans l'univers, mais une fois passée, elle prend beaucoup de sens. C'est comme la métaphore où il faut continuer à creuser quelques mètres pour trouver des diamants. Faites-moi confiance, le film en vaut la peine. Il est extrêmement drôle, porté par un casting incroyable composé notamment de Romain Duris, Bérénice Bejo ou encore Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi. C'est d'ailleurs dans ce film que je les ai découverts en fait. D'autant plus que c'est signé Michel Hazanavicius, donc si vous aimez les premiers OSS 117, vous savez de quel genre d'humour je veux parler. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un remake du film japonais de Shinichiro Ueda, qui s'intitule Ne coupez pas. Mais c'est encore plus grotesque, parce que par exemple, ils ont décidé de garder les noms japonais des personnages dans le court-métrage intradiégétique. C'est un film très méta. C'est un film très méta puisqu'il y a un film dans le film, c'est une véritable mise en abîme du cinéma et de ce qu'est un tournage. Ça met en exergue les problèmes auxquels on peut être confronté lors de tournage, d'autant plus que dans leur cas, ils ont voulu tourner un plan séquence. Alors un plan séquence, c'est probablement l'une des techniques les plus difficiles à mettre en œuvre puisqu'il faut que l'organisation soit millimétrée. Et justement, grâce au film, on a accès aux coulisses de ce qu'est un plan séquence. Et je terminerai en disant que ce film montre également que le cinéma, que ce soit au niveau du jeu, de la caméra, du montage, de la réalisation, c'est souvent une histoire d'improvisation et de bricolage.
Oui, en effet, les 30 premières minutes, il faut s'accrocher. Hein. Moi, j'avais trouvé ça même franchement mauvais. Mais savais qu'il fallait regarder la suite.
Exactement, pareil. Vraiment, au début, quand j'ai regardé les 30 premières minutes, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? J'ai failli arrêter. Et finalement, quand on a passé ce cap, le film est une pure régalade, comme on dit.
Et alors la musique, ça, elle est extraite du film?
Oui, la musique est extraite du film, c'est littéralement la musique de fin que j'aime beaucoup. Et donc, vous allez écouter Chelsea Dagger du groupe Les Fratellises.
Yeah.
said, sweet, she said, my boy is dagger. Oh, yeah. Jimmy Gill, thank you dear, bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it.
Alors après Laura, c'est au tour d'Anne de nous parler d'un film qu'elle a aimé, et je crois qu'elle a beaucoup aimé, Délices de Tokyo. Vous aimez bien le cinéma asiatique.
Oui, pas tout. Je trouve qu'en plus, d'un côté, c'est quand même une réalisatrice assez reconnue, hein, Naomi Kawase. Et puis, d'autre part, la fois précédente, j'avais parlé de Perfect Days, un film également qui se passe au Japon, mais réalisé par Wim Wenders. Donc, c'est une autre histoire. Enfin, en tout cas, c'est vrai que les Délices de Tokyo ont déjà 10 ans. C'est un film qu'on peut qualifier de croustillant. Naomi Kawase nous avait habitués à des films plus exigeants, comme on dit. Mais ici, pas question de bouder notre bonheur. Alors, ça se passe dans une minuscule boutique dans le Tokyo d'aujourd'hui, en plein centre. Le Sentaro fabrique des dorayaki, c'est-à-dire des pâtisseries faites de deux pancakes fourrés de haricots rouges confits. Étrange hein, pour nous, mais très apprécié au Japon. Sentaro vivote avec pour principale cliente les lycéennes du quartier. Un jour, alors qu'il discute avec Wakana, une de ses lycéennes, Tokue, une adorable, un peu étrange vieille dame, se présente. Elle aimerait travailler pour lui. Il accepte, un peu surpris. Elle va confier à Sentaro le secret de sa recette et la boutique devient incontournable. Les recettes financières, cette fois, vont s'envoler. En fait, chacun des trois, de ces trois générations, a un secret qui le place un peu en marge, à l'écart de la société. Secret qu'on découvrira peu à peu, mais je ne vous le dévoilerai pas. Et chacun apportera sa pierre à leur complicité. Dans l'espace de cette minuscule cuisine, la réalisatrice nous montre d'abord un quotidien un peu rêvé entre ces trois personnages, avec la douceur sucrée de la pâte de haricots rouges, le sucre qui console, comme chacun sait, surtout aujourd'hui. Il faut dire que Tokue, en plus d'être une pâtissière exceptionnelle, avec ses mains toutes déformées, on finira par savoir pourquoi, elle parle aussi à la nature, la lune, les arbres, le vent, au fil des saisons. Un truc bien japonais, si j'ose dire. Pensez à Totoro de Miyazaki. D'ailleurs, elle parle aussi aux ingrédients de ses pâtisseries. C'est sa manière à elle d'être au monde, dans une société qui l'a tenue à l'écart. Et tout cela ensemble dégage une sensualité au goût de bonheur, même si tout n'est pas aussi rose tout au long du film. Et si on remplaçait nos crêpes par des dorayaki? La recette est facile à trouver, sur Internet bien sûr. Merci Naomi.
Alors moi j'enchaîne sur un film de 2002 de François Ozon, 8 femmes. C'est une adaptation, c'est une des adaptations de la pièce de théâtre de Robert Thomas. Et j'avoue que quand j'ai découvert ce film, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors c'est une comédie musicale, c'est donc il y a beaucoup de chansons, mais chantées par des personnes assez étonnantes. C'est une histoire de famille, je ne vous ferai pas de résumé parce que c'est très compliqué. Je préfère vous citer ce casting de rêve de 8 femmes, en commençant par la doyenne Danielle Darieux, qui est pétillante et extraordinaire, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuel Béard, Fanny Ardant, Virginie Ledoyen, la jeune Ludivine Sagnier et Firmine Rijard. Et chacune d'entre elles, à un moment donné, chante une chanson à sa manière. Et c'est jouissif. Moi, j'avoue que je connais à peine, en fait, la version originale. On écoutera tout à l'heure la version originale. Mais c'est toujours impressionnant comment un metteur en scène arrive à adapter à tout changer. Je pense par exemple à Pile ou Face interprété par Emmanuel Béard ou À quoi sert de vivre par Fanny Ardant. C'est des morceaux vraiment d'anthologie, de jeu et de chant, ou alors Isabelle Huppert aussi. Alors je vous ai dit que je ne vous résumerai pas, c'est assez irracontable, mais ce qui est très théâtral, c'est comme un huis clos. Hein. C'est-à-dire c'est dans une villa dans les années 50, bloquée par la neige, les fils du téléphone ont été coupés. Par qui cela fait passer de l'intrigue? Et il y a eu un mort. Un mort qu'on ne voit pas, bien sûr, qui est mort dans son bureau. Et la fin est assez étonnante, mais bien évidemment, je ne vous la dévoilerai pas. Alors, François Ozon, en 2002, a fait preuve de beaucoup d'inventivité. Et je me suis toujours demandé comment il a réussi à avoir un tel casting, parce que c'était toutes des grandes vedettes. Et voir Fanny Ardant et Catherine Deneuve jouer ensemble, l'une en rouge, l'autre en noir, si je me souviens bien, voir la transformation d'Isabelle Huppert de jeune fille complètement frustrée en vamp, c'est assez étonnant. Et ça s'enchaîne très très bien. Et parfois, dans les comédies musicales, on a un petit peu de mal en se disant « Oh là là, c'est un peu plaqué, c'est un peu artificiel. » Et là, ça s'enchaîne parfaitement. Les décors sont très beaux, c'est une grande villa, c'est une grande pièce. Tout se passe dans la grande pièce, dans le grand vestibule. Les vêtements sont superbes, les étoffes sont superbes. C'est une parodie de Polar. Je pense que c'est un film qui est assez difficile à définir, à décrire. Et c'est ce qui en fait justement tout son charme. Et je vous propose qu'on écoute une des chansons, alors chantée là par la chanteuse qui l'a créée, c'est-à-dire Dalida.
Pour ne pas vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec des roses ou avec une croix. Pour ne pas vivre seul, on se fait du cinéma, on aime souvenir. Une ombre, n'importe quoi. Pour ne pas vivre seul, on vit pour le printemps. Et quand le printemps meurt, pour le prochain printemps. Pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends. Pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul. De ne pas vivre seul. Ne pas vivre seul, des filles aiment des filles, et l'on voit des garçons épouser des garçons. Pour ne pas vivre seul, d'autres font des enfants qui sont seuls, comme tous les enfants. Pour ne pas vivre seul, on fait des cathédrales, où tous ceux qui sont seuls s'accrochent à une étoile. Pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends. Pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul, on se fait.
Alors sur Radio Alliance Plus, donc chacune d'entre nous, Laura, Anne et moi-même, nous parlons de deux films. Et Laura, je ne sais pas si je te tutoie ou je vous vois, mais bon.
Comme tu veux.
L'écume des jours. Je peux dire en introduction, je n'ai pas du tout aimé le film, alors que j'adore le livre. Mais toi, c'est l'inverse.
Oui, moi, c'est l'inverse. Et justement, j'en parlerai après du fait que je n'ai pas pu rentrer dans l'univers du livre. Mais le film est plus accessible, je trouve. Mm. Donc, je vais encore parler d'un film dans lequel joue Romain Duris, mais dans un registre complètement différent. L'écume des jours, sorti en 2013 et réalisé par Michel Gondry, est un drame qui s'inscrit dans un univers fantastique. Également, c'est l'adaptation du roman éponyme de Boris Vian dont on parlait à l'instant. Je vous parlais de Romain Duris, mais au casting, on retrouve beaucoup de noms connus comme Audrey Tautou, Omar Sy ou encore Gad Elmaleh. C'est un peu surprenant, mais il ne faut pas oublier que c'est un acteur aussi. L'histoire est surréelle et poétique et suit la vie de Colin, un jeune homme idéaliste et inventif qui fait la rencontre de Chloé. Leur mariage idyllique tourne rapidement à l'amertume, lorsque Chloé tombe malade à cause d'un nénuphar qui grandit dans son poumon. Oui, c'est bizarre, mais on ne perd pas de vue que c'est un univers fantastique. Pour payer ses soins, dans un Paris fantasmatique, Colin doit travailler dans des conditions de plus en plus absurdes, pendant qu'autour d'eux, leur appartement se dégrade et que leur entourage se délite. Donc comme l'autre film dont j'ai parlé, celui-ci se décompose également en plusieurs parties, et cela se remarque au niveau de la photographie qui se dégrade au fur et à mesure. Au début du film, les couleurs sont très vives, pour montrer que la réalité de Colin est dénuée de problèmes, puis progressivement, les couleurs deviennent de plus en plus ternes jusqu'à devenir seulement des nuances de noir et blanc. On fait face à une réalité altérée, un peu comme dans La vie est belle de Roberto Benigni. C'est une réalité très sombre, dissimulée derrière des métaphores, des images et des belles couleurs. Et puisque cette vision du monde appartient à Colin, on suit son point de vue. Cela montre que c'est un personnage naïf, insouciant, qui n'a pas les pieds sur terre, ce qui pourrait expliquer en partie que le film est extravagant, farfelu et absurde. Ce sont des adjectifs qui correspondent plutôt bien au réalisateur Michel Gondry, qu'on qualifie de cinéaste de la fantaisie loufoque et des bricolages de génie. Donc pour ma part, je pense que qui d'autre que lui aurait pu adapter L'écume des jours. Pour être honnête, j'ai essayé de lire le livre et je n'ai pas du tout réussi à entrer dans cet univers absurde parce que justement, Boris Vian décrit des choses complètement dingues que je voulais voir visuellement parce que mon imagination était trop limitée. C'est pour cette raison que je trouve que le film de Michel Gondry est une adaptation réussie parce qu'il parvient à mettre en image des concepts qu'on peine à s'imaginer. Des choses complètement absurdes qui relèvent de la fantasmagorie et ça se mêle parfaitement avec l'identité cinématographique du réalisateur.
En fait, c'est tout le problème entre la littérature et le cinéma. Et je me dis que si vous dites personne, qui aurait pu adapter L'écume des jours à part Michel Gondry, peut-être qu'il y en aura d'autres qui y feront et ils auront une autre vision, une autre imaginaire. Et l'intérêt du livre, c'est que chacun fait son propre imaginaire.
Exactement.
Mais bon, c'est totalement complémentaire de toute façon.
Non, mais oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai que je trouve que quand même Michel Gondry, son cinéma, son identité, ça colle bien avec l'univers de L'écume des jours. Et donc, je trouve ça bien que ce soit lui qui l'ait adapté, en tout cas. Peut-être pas en premier, parce qu'il y a peut-être une version antérieure qui existe.
Peut-être, oui.
Mais je trouve que sa version est pas mal.
Oui, j'ai bien aimé le terme de bricolage. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un bricolage.
Il y a du bricolage, parce que notamment, il utilise des techniques comme la stop motion au début du film, ce qui fait très, très bricolage.
Oui, c'est un film à voir absolument, que l'on ait lu ou qu'on n'ait pas lu L'écume des jours, qu'on veuille garder sa propre imagination ou celle du réalisateur. Alors Anne, vous allez nous présenter un film que je ne connais pas du tout. Je vous laisse le soin de nous dire lequel.
Bah oui, effectivement, parce qu'en ce moment, le dernier film de Dominique Moll, Dossier 137, est sur les écrans, à la grande satisfaction de tous ou presque. Allez-y, si ce n'est déjà fait. Mais j'ai choisi par hasard, je l'ai réalisé après coup, de parler de Seules les bêtes, dont je gardais un souvenir fort. Son avant-dernier film, avant la nuit du 12. Une nouvelle fois, il nous plongeait tête la première dans un thriller particulièrement sinueux. Un film comme je les aime, qui nous égare et même nous embrouille délibérément avec sa construction éclatée. Il donne à voir aux spectateurs des morceaux de l'histoire du point de vue de chacun des cinq personnages principaux. Ils apportent tous des éléments nouveaux et permettent de reformer le puzzle, mais pas forcément dans l'ordre. Alors pour essayer de vous expliquer, je crois que la meilleure solution c'est de présenter les cinq principaux personnages. Tout d'abord, la première scène, totalement inattendue. Un jeune homme à vélo, transportant une chèvre vivante sur son dos, roule à travers Abidjan. Il va frapper à la porte de Papa Sanou. Au plan suivant, deuxième choc, on bascule sans transition sur le Causse-Méjean en plein hiver, sous une tempête de neige. C'est là que tout a l'air de se nouer, autour d'une voiture abandonnée. Pourquoi nous voilà plongés dans ce monde rugueux, glacé, un peu mystérieux? C'est dans cet univers qu'on rencontre donc les protagonistes. Alice, Joseph, Michel, Marion et Amandine. Le point de vue de chacun va nous être présenté et nous nous retrouvons dans un univers de confusion entre faux-semblants et mensonges. Donc d'abord, il y a Alice, Lorca l'ami, craquante. Elle est assistante sociale et parcourt les routes du COS pour aider les gens isolés à venir à bout de leurs dossiers administratifs. C'est comme ça qu'elle se rend chez Joseph, un drôle de paysan taiseux, un peu simple peut-être. Mais elle l'aime, allez savoir pourquoi. Sur le chemin du retour, elle voit la voiture abandonnée. Ensuite, il y a Joseph, Damien Bonnard, qui a fait les Beaux-Arts à Nîmes, que certains d'entre vous connaissent. Il est comme étranger au monde, très affecté par la mort récente de sa mère. Lui, il élève des moutons. Et il a découvert un cadavre derrière son tas de bois, un cadavre de femme. Paniqué, il le cache entre des balles de foin et reste auprès d'elle le long moment, en écoutant le « Tu t'en vas » d'Alain Barrière. Ensuite, il y a Michel, le mari d'Alice, lui, élève des vaches. Il dialogue en douce, il s'ennuie en fait un peu, sur Internet avec une certaine Amandine. Mais alors qu'il la croit à Abidjan, il la voit faire du stop sur la route du Causse. Ensuite, elle lui être menacée par des gens auxquels elle doit de l'argent. Surprenant une dispute d'Amandine avec cette Evelyne, cette femme à laquelle elle devrait de l'argent, il croit celle-ci coupable et la tue. Nous avons ensuite encore Marion. Marion, petite serveuse de restaurant, passionnée et fragile à la fois. Marion tombe amoureuse d'Evelyne, avec qui elle partage une nuit dans son hôtel pour commencer. Evelyne est une riche bourgeoise dont le mari travaille en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et encore, enfin, Amandine. Nous voilà de retour à Abidjan, où le jeune Armand est décidé à sortir de sa pauvreté pour reconquérir l'amour de celle qu'il aime et qui lui préfère la sécurité avec un blanc. On la comprend. Il se fait brouteur, vous savez, ces arnaqueurs qui se font passer sur des sites de rencontres pour des femmes en quête d'amour auprès de naïfs crédules. Et son appât, c'est elle, Amandine, sous les traits usurpés de Marion. Ne me demandez pas comment ça se fait. Et le pigeon, c'est Michel, le fermier. L'escroquerie fonctionne bien. Il lâche pas mal d'argent à Armand, mais finalement échappe à Armand par un concours de circonstances bizarres. Et comme le dit Papa Sanou, le hasard est plus fort que toi, ce marabout clairvoyant. Et on ne dévoilera pas la fin de l'histoire, tellement sidérante qu'elle n'est pas à dévoiler. Voilà, alors si vous avez tout compris, bravo. Sinon, ce n'est pas très grave. Il ne faut pas être trop exigeant sur la vraisemblance, les coïncidences. Tout est bon pour nous perdre dans ce dédale. Mais c'est avant tout l'atmosphère de ces univers, de ces environnements si éloignés, voire opposés, qui nous embarque au fil des solitudes des uns et des autres. Et c'est ça qu'on aime.
Merci Anne, parce qu'en fait, je l'avais vu ce film, je l'avais totalement oublié. Et en vous nous écoutant, je me rappelle, je revois les scènes. Hein, la force de l'image, et de pas de l'imaginaire, mais du visuel. Et on écoute ce que vous avez cité, donc Tu t'en vas.
Eh bien, vous aurez droit à un extrait de Tu t'en vas d'Alain Barrière. Petit hommage de Dominique Moll à ce chanteur des années 70.
Avec un film dont nous avons beaucoup parlé au micro de Radio Alliance Plus lors du festival Une salle sous les étoiles de juillet 2024, dont l'invité d'honneur était Michel Hazanavicius. Nous n'étions pas mis d'accord avec Laura, donc il y a deux films de Michel Hazanavicius. Il était avec Bérénice Béjot et c'est elle qui avait dit justement « Tenez les 30 premières minutes de coupé et après vous serez vraiment contente ». Alors, La plus précieuse des marchandises, c'est le premier film d'animation. C'est un film franco-belge, à partir d'un conte de Jean-Claude Grimberg, que Michel Hazanavicius connaît très très bien. Et c'est sorti en 2024. C'est un projet qu'il a mené dès 2019, mais interrompu par le Covid. Et justement, entre-temps, il avait réalisé donc Coupé. Alors, le sujet est très dur, c'est la Shoah, mais qui est à peine évoquée, c'est plutôt toujours allusif. Une bûcheronne en Pologne voit passer des trains et pense que ce sont des trains de marchandises. Elle ne sait pas que ce sont des trains de déportation. Et tous les jours, elle va vers ses rails pour essayer de trouver une marchandise pour ne pas mourir de faim. Et un jour, ce n'est pas une marchandise qu'elle trouve, mais un bébé. Elle le cache à son mari, qui surtout ne veut pas d'enfant, et elle l'élève, et peu à peu, cet homme, cette brute, aime cet enfant. Il y a une très belle scène où il lui construit une petite poupée. Et Michel Hazanavicius disait qu'il n'aurait jamais fait un film sur la Shoah. Mais là, le dessin, puisqu'il est lui-même dessinateur, mais il le dit lui-même, il ne fait que les êtres humains, donc il a toute une équipe autour de lui pour faire les paysages. Là, c'était une autre façon. C'est un témoignage, c'est poétique et c'est surtout une histoire d'amour. Combien cette grosse brute de bûcheron peu à peu s'ouvre et c'est bien sûr un appel à la tolérance. C'est une lutte contre l'antisémitisme. Et là aussi, peu importe de raconter l'histoire, mais de savoir qu'il y a toute une réflexion vraiment sur la tolérance et l'amour. Je ferai juste une petite remarque. Je n'ai pas trop aimé la fin, mais peu importe, ce n'est pas ça qui est important. Ce film a eu 3 Césars hein, en 2025. Le César de l'animation, de l'adaptation et de la musique. La musique est de Alex Delplat et il y a dans ce film un très beau chant yiddish chanté par Marie Laforêt. La voix du narrateur, c'est la voix de Jean-Louis Trintignant quelques mois avant sa mort. La bûcheronne, c'est Dominique Blanc. Le bûcheron, Grégory Godbois. Et La gueule cassée, un personnage très important du film, un moment d'émotion vraiment immense, c'est Denis Podalydès. Donc allez voir ce film si vous ne l'avez pas encore vu. Et lu si vous voulez lire le conte de Jean-Claude Grimberg. Bonne fin d'année à vous, belle fin d'année à vous. On n'a pas parlé des films de Noël, mais il y a un clap cinéma de Jean-Max Maison qui vous parle des films de Noël. Une belle fin d'année à tout le monde. Bonne fin d'année à Anne. À l'an prochain.
À l'an prochain, bien sûr.
Laura, belle fête de fin d'année. À l'an prochain.
À l'an prochain aussi.
Plein de nouveaux films. Merci. Voilà, et à 2026.
Voilà.